Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International pour évoquer aujourd'hui le Milan AC leader grâce à son sauveur Olivier Giroud. L'attaquant a inscrit le but qui permet aux Rossoneri de passer Naples pour l'instant au classement. L'équipe de Pioli revient-elle pour durer ? Le PSG, plus qu'un club, parce qu'il offre quotidiennement ou presque un nouvel épisode de sa telenovela, parce que son infirmerie ressemble parfois à un hôpital, même s'il tient la route du côté des résultats. Vous nous en direz plus, Dominique
Serrac. Bonjour Annie, bonjour. Avec plaisir. On s'ennuie jamais avec le Paris Saint-Germain.
N'est-ce pas
vous ? C'est pour ça que c'est un métier en or.
Nous parlerons aussi VAR et arbitrage. Faut-il tout remettre à plat, notamment dans l'arbitrage français ? Et puis nous parlerons aussi foot business, une coupe du monde tous les deux ans, un match de Ligue 1 en Chine. Où va donc le football de notre enfance ? Est-ce le football de demain ? Bonjour Étienne Moati.
Bonjour, c'est déjà même un peu le football d'aujourd'hui, j'ai l'impression.
Malheureusement, oui, c'est ce dont on a l'air de se rendre compte à chaque fois. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie.
Tout va bien ? L'Afrique vous a rendu à nous ?
Oui, mais avec un regard ensoleillé, vous le savez.
oui, ça fait toujours du bien. Alice Ménard est à la réalisation. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission Radio Foot. C'est parti.
Giroud qui est marqué de très près à Tonali, à la tête de Kronić. Giroud et l'ouverture du score avec Olivier Giroud à la 14e minute. Le Français qui a inscrit là son 3e but de la saison en championnat. C'est terminé. Ce match 1-0 face au Torino. Milan, c'est du costaud.
Et de 4, quattro retes pour Olivier Giroud en Serie A, le néo Rossoneri qui a hier soir contribué une fois encore à la victoire de son équipe. Le Milan AC reste invaincu après 10 journées de championnat. Un seul but dans ce Milan-Torino, mais cette victoire à San Siro est la 6e consécutive des Milanais qui reprennent les rênes du calcio devant Naples qui jouera jeudi soir et ça sera contre Bologne. Vous allez l'entendre, le buteur du soir était donc heureux.
Sono molto felice perché allora abbiamo.
Je suis très heureux parce qu'on a été très solide devant et derrière aussi. Et on a pris les 3 points, ce qui est le plus important. Vous savez, on joue tous les 3 jours et physiquement, c'est compliqué. Donc, ce n'était pas parfait, mais nous sommes très, très contents de cette victoire.
Muito felice et very pleased. Hein. C'est bien de pouvoir utiliser au moins deux langues étrangères pour Olivier Giroud. En tout cas, qu'est-ce que vous diriez, Philippe Doucet ? Il ne faut jamais douter d'un papy du foot, Olivier Giroud. Oh ben, 35 ans, super sub à Chelsea, du côté de Milan.
Non, il est titulaire à Milan pour l'instant. Tant qu'Ibrahimovic n'est pas revenu dans sa meilleure forme.
C'était son 6e match.
Giroud joue très souvent. Il est presque, pour l'instant en tout cas, titulaire. Mais de toute façon, c'est pour l'Italie, c'est pas un papy. 35 ans, c'est rien.
Exactement.
Là-bas. Franchement, Ibra a 5 ans de plus. Et bien des joueurs sont plus âgés que lui.
Oui,
l'Italie
a
l'habitude de croire.
Ça, voilà.
Oui, de croire.
Ribéry
a 38 maintenant, je crois. Hein, oui. L'Italie a l'habitude de croire aux anciens, à juste raison souvent, parce que les joueurs progressent dans leur préparation, dans leur façon de vivre, pas tous, mais un certain nombre progressent et ça donne des carrières assez longues. Et du coup, les Italiens qui n'ont pas encore les moyens financiers suffisants pour attirer les meilleurs jeunes qui se battent, pour lesquels se battent un certain nombre de clubs limités en Europe, le Milan AC en profite pour faire des bonnes opérations de ce genre-là. Giroud, c'est un choix intelligent. On sait tous que c'est pas le meilleur joueur du monde, bien évidemment. Il y a pas, par moment, il y a des débats assez absurdes, des comparaisons avec Benzema et autres qui ne servent absolument à rien. Mais par contre, c'est un joueur, c'est une valeur. Pour un club comme Milan, c'est une vraie valeur.
Une valeur et en plus régulier. À 35 ans, donc, il a disputé 6 matchs de Serie A, 4 buts. Il a marqué surtout lors de ses 3 premiers matchs de Serie A à San Siro. Et ça, seul Mario Balotelli l'avait fait il y a déjà quelques années, c'était en 2013. Dominique, finalement, il fait du bien à cette équipe qui est invaincue et on en avait beaucoup parlé, notamment avec Matteo Cioffi. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe et finalement, il y a un bon mélange du coup entre jeunes et expérimentés, on va dire.
Oui, ils ont pris le gardien français Mike Maignan, qui est désormais numéro 2 en équipe de France, qui est jeune. Oui, oui, tout à fait. Il y a un bon mix. C'est la confirmation du retour du Milan sur le devant de la scène. C'est un club qui avait disparu au gré d'une gestion et d'une fin d'ère Berlusconi très compliquée et qui désormais, avec un coach qu'on croyait un peu anonyme, parce qu'il y a eu une succession aussi de coachs à un moment donné.
Pendant un moment, c'était l'alternance. Oui.
C'était très rapide. Beaucoup d'intérimaires et tout ça. Et maintenant, avec
Stefano Pioli.
Pioli, voilà, qui est pas un des grands noms italiens a priori, mais donc ça fonctionne, c'est bien. Et puis le Giroud qu'on voit, c'est le Giroud qu'on connaît depuis 2012, depuis le titre de champion avec Montpellier. Lui, son mental aura fait sa carrière. Il ne sombre jamais, quelle que soit l'adversité, le coup dur, la concurrence. Comme l'a dit Philippe, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais lui, il arrive toujours.
C'est pas le pire non plus, quand même.
Bah ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a quand même un niveau plus.
État d'esprit, surtout,
ouais, il a pas dépareillé dans des clubs comme Chelsea, Arsenal et maintenant l'AC Milan. Donc quand même, il mérite le respect. Ce qui lui arrive en équipe de France, pour moi, est un peu scandaleux. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup il se retrouve à la cave. Pourquoi il pourrait pas être un des 23, un remplaçant. On dit pas qu'il doit jouer avec Mbappé, Benzema et Griezmann, mais il pourrait être tout à fait remplaçant quand je vois ce qu'il y a sur le banc, des Ben Yedder,
Martial,
des joueurs. Qui eux dans leur club ne sont assez rarement performants, voire pas titulaires parfois. Je comprends pas trop pourquoi tout d'un coup il s'est fait exclure des Bleus, pourquoi il paye sa petite phrase d'avant Euro qui a fâché Kylian Mbappé. Il y avait pas de quoi en faire un drame.
Parce qu'il a touché à l'intouchable peut-être.
Bon, oui, bon, bah il y a eu un différend, ils en ont parlé, c'est fini. Donc
oui. Ça prend peut-être trop d'ampleur.
Je comprends pas ce qui lui arrive du point de vue de l'équipe de France.
Etienne, cette équipe surtout, elle est invaincue, elle est pas la seule, hein, si je me trompe pas, c'est l'Inter aussi qui sont invaincus dans ce championnat.
Naples,
si je me trompe pas, ils ont une défaite.
Ils ont pas perdu ce week-end, Naples.
Ils ont fait match nul.
Ouais.
Bon. Tout se mélange le mercredi. En tout cas, Étienne, pour ce qui est de Milan, alors c'est vrai qu'il y a eu les grandes années, on les avait un peu perdu de vue, il y avait des hauts et des bas. Peut-être qu'en ce moment, avec un travail de fond, comme le dit Dominique, avec aussi un entraîneur qui reste et qui fait un travail avec des jeunes qui maintenant sont, en tout cas peut-être un peu moins jeunes, mais surtout plus expérimentés, avec aussi certains, on en a cité certains, mais il y a Théo Hernandez qui là avait le Covid, qui revient. Lui, c'est devenu un international français aussi. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur la régularité de cette équipe, vous pensez ?
Elle était déjà pas si mauvaise la saison dernière, puisqu'elle a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, il y a quand même une forme de continuité dans ce que fait le Milan. Donc, c'est une équipe qui est en train de se stabiliser, mais pas non plus à un niveau exceptionnel. Quand vous regardez les résultats, les performances de Milan en Coupe d'Europe cette saison, depuis le début de la saison, ils sont encore très loin du haut niveau européen. Donc, on va dire que c'est une équipe, si elle mise aussi sur un joueur, comme l'a dit Philippe, comme Olivier Giroud, c'est qu'elle n'a pas non plus des moyens et des ambitions donc pour être dans le top 10 européen aujourd'hui, ce qui était quand même pourtant son quotidien il y a quelques années. Donc voilà, l'ensemble du championnat italien est en train de se refaire un petit peu la cerise, mais ça revient doucement quand même.
Et notamment sur la scène européenne, hein, on voit que c'est laborieux aussi, et je pense à des équipes même comme la Juventus. En tout cas, vous avez raison, Philippe,
oui,
c'est pas
zéro.
L'Inter, voilà, c'est Naples qui est invaincu encore dans ce championnat et non pas l'Inter qui a
0-0 à
une
Rome
défaite.
Ce week-end.
Oui. Contre l'équipe d'un certain José et Mourinho. En tout cas, suite de ce calcio hein, qui quand même est intéressant parce que des fois justement il y a moins peut-être de stars qui brillent ailleurs et pourtant ça reste. En tout cas, il y a plus comme la Juve n'est que sixième pour l'instant. Du coup, on a l'impression
après son début de saison catastrophique et le retour d'Allegri et la perte de Cristiano Ronaldo parce que ils en étaient pas visiblement très contents, mais c'était quand même le meilleur buteur de la Serie A la saison passée. Puis c'est quand même un joueur quand même un peu au-dessus de lui qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est un championnat sans véritable star, quoi. Il n'y a pas de tête d'affiche.
Pas vraiment. Il y en a. On pense à Dybala et voilà. Tout ça. Mais
les
voilà,
têtes d'affiche,
exactement.
Et les clubs. Mm-hmm. C'est...
Et le retour, eh ben des Milanais. Hein, ces deux dernières saisons, mm-hmm. On avait aussi quand même le retour des Romains, même si là ça s'éclaircit un peu. Puis toujours ces clubs surprises comme l'Atalanta, comme Sassuolo. Et là, la Juventus est quand même, alors avec un match en moins, mais à 13 points du leader, ce qui fait que bon, il faudra être dans les 4 premiers pour disputer la Ligue des Champions. C'est vraisemblablement son objectif, en tout cas, suite ce soir de cette Serie A et de ces matchs du Calcio. Nous, on continue. Ah oui, il y avait quand même une deuxième victoire, parce que ceux qui accumulent les défaites, c'est un certain Salernitana.
Salernitana,
où joue justement Ribéry. Ils ont remporté leur deuxième victoire.
Hein. Il le savait, hein, Franck, en allant là-bas.
Contre Venise, oui. Ouais, ouais.
Franck, tu l'appelles, toi.
Franck, c'est son prénom.
Francky.
Francky.
Il a été décisif, en plus, dans cette victoire à Venise. Il a causé un carton rouge, bon. C'est pas très justifié, mais enfin, peu importe. Et il a fait une passe décisive. Donc voilà. C'est le grand retour de Francky.
Mais bien sûr.
Le grand retour.
Les grands joueurs ne meurent jamais, Philippe.
Absolument.
Et surtout en Italie.
Vous voulez dire que le championnat s'y prête?
Non, mais on leur fait honneur. Et moi, je trouve que c'est intéressant.
Ouais, sur la première ligue aussi. Il y a des vieux. Il y en a partout. Il y en a franchement partout.
Bon. Allez, on continue. Je crois qu'il n'y en a pas trop au PSG.
Mais Paris est différent. Paris est différent. Si on gagne ou si on fait quelque chose, c'est toujours différent à Paris et dans la France.
Je fais mon mal, Johnny, je suis pas une mouche.
Il y en a ça. Ça, qui est nous. Qui est le Parisien à ça? Ça, c'est la joie de foot.
Moi, j'aime l'amour qui fait boum. Moi, j'aime l'amour qui fait boum.
Metz qui est un club, ça peut être, hein, ça, en français, ça fait donc plus qu'un club, le PSG, et ce feuilleton permanent, parfois inégalable, il faut le dire. Alors, Dominique, ces derniers temps, un joueur ne jouait pas, hein, parce qu'il y avait des conséquences sportives, à cause de ses amours un peu tumultueuses, c'est l'Argentin Mauro Icardi et son agent, qui est sa femme aussi dans la vie. On a eu force détail de la brouille et de la réconciliation. Merci les réseaux sociaux. Est-ce que tout est rétabli dans le droit chemin?
Il semblerait, écoutez, je ne vis pas avec eux et Dieu
m'en
garde.
C'était un coup de pub pour les réseaux sociaux.
Dieu m'en garde. Bah, écoutez, la Vandana Ara, la mannequin argentine.
Mannequin
argentine.
Ah bon? Elle était mannequin?
Oui. Ah oui, c'était son rôle au départ, hein, sa fonction. Elle a gagné 1,5 million de followers sur Instagram pendant la crise conjugale.
Mais elle en a toujours moins que Madame Messi.
Oui, mais ça se monétise tout ça, vous savez, parce qu'elle a elle est en lien avec des...
Qui est nettement plus sérieuse, Madame Messi, quand même.
Avec des liens de cosmétiques.
Plus jolie,
voilà,
aussi,
donc ça, c'est les goûts. Et donc, oui, il y a une histoire d'argent aussi derrière tout ça. La spectacularisation de leur crise, elle n'est pas dénuée d'intérêt d'arrière-pensée. Cette façon d'étaler comme ça sur la place publique ses problèmes conjugaux.
Pour Icardi, ça n'avait pas un intérêt majeur, on peut le dire, non?
Non, mais si sa femme peut gagner des followers et un peu plus d'argent.
Ça, et du coup, je pense que c'est un complot juste pour faire augmenter le nombre de followers.
Je dis que le monde est bien fait, que tout ça, ça se monétise. Donc voilà, quoi. Et puis après, qu'il soit plus joueur de football, c'est pas bien grave, parce que quand il l'est, ça n'a aucun intérêt. Donc,
d'accord.
Donc franchement, qu'il soit sur le terrain ou pas, on ne voit pas la différence.
Je vous dis que c'est une telenovela. Philippe, vous ne croyez pas avant d'entrer dans ce studio. Non. Et vous allez voir. Alors ce matin, il y a eu un autre épisode aussi.
Oui.
Il y a un joueur qui s'est perdu dans le bois de Boulogne hier en rentrant du Parc des Princes, parce que c'est pas très loin, c'est même contigu.
Mmh. Et sortait d'une soirée partenaire.
Avec des sponsors ouais, sur la pelouse du Parc des Princes. Alors au début, on n'a pas dit son nom. Finalement, on l'a vite connu. C'est Ander Herrera. Il a été agressé par une des prostituées dans ce coin de la capitale française. Alors, un de ses proches a déclaré l'objectif de sa démarche, parce qu'il a porté plainte, on lui a volé 200 euros. L'objectif de sa démarche est que la personne soit interpellée et que ça ne se reproduise pas. S'il avait quelque chose à se reprocher, il n'aurait pas prévenu la police.
Le recours à la prostitution est interdit en France, donc ça, c'est pour ça, je pense que ce proche précise ça. La version officielle, c'est que sa fermeture centralisée n'a pas fonctionné, donc que la prostituée a pu rentrer dans sa voiture et lui demander, lui prendre ses effets personnels. Il avait mis son téléphone portable et son portefeuille sur le siège passager. Et donc ça s'est soldé en donnant 200 euros contre le fait d'être déposé quelques mètres ou kilomètres plus loin. Et voilà, et après il a averti le club qui l'a emmené au commissariat, ils ont porté plainte. Et voilà, donc il était à l'entraînement ce matin, il est pas du tout en état de choc ou quoi que ce soit, donc il postule à une place éventuellement pour jouer Lille vendredi soir. Voilà, on est sur la thèse d'un fait divers, quoi.
Mais Dominique, est-ce que la com du Paris Saint-Germain s'arrache un peu les cheveux en ce moment ?
Bah, disons qu'ils ont commencé ce matin par démentir en off, alors que c'est eux, même hier soir, qui l'ont aidé à porter plainte. Donc, il faudrait que les services entre eux se parlent. Peut-être qu'ils n'étaient pas tous au courant. Oui, bah forcément. Le problème.
Est-ce que Mauro Icardi, on doit lui dire, Étienne, d'être plus discret, disons, que ça peut porter aussi préjudice. Je sais pas, l'équipe, ça a porté préjudice. En tout cas, il a pas pu jouer, par exemple, le match
de
Ligue des Champions.
De toute manière, il y a des choses qui sont prévues contractuellement dans les clubs de football et notamment au Paris Saint-Germain, donc qui ont trait à l'image qui est donnée par les joueurs, avec une petite partie de la rémunération qui peut être versée ou pas en fonction de l'attitude des joueurs. On peut imaginer que cet étalage public des problèmes sentimentaux de Mauro Icardi pu impacter un petit peu cette rémunération. Mais voilà, bon, pour Mauro Icardi, je dirais qu'il n'y a pas de surprise particulière parce que ça fait déjà assez longtemps qu'ils étalent un petit peu leurs amours ou pas, donc sur la place publique. Ce qui est particulier dans le cas d'Ander Herrera, c'est que c'est peut-être celui qui paraît le plus sérieux du Paris Saint-Germain. Je veux dire, un profil assez lisse, le très bon coéquipier, une histoire vraiment sans vague dans tous les clubs où il est passé. Donc on peut peut-être considérer que c'est tout simplement une victime d'un fait divers. Ça peut arriver, même si évidemment, ça peut aussi prêter un petit peu à sourire. Mmh.
La communication, Dominique, dans ce cas-là, il faut qu'elle monte au créneau, il faut qu'elle...
C'est pas
fasse un peu toutes les traces,
c'est pas un club qui a une cellule de crise, alors qu'elle c'est un club qui produit sa propre actualité sans qu'on ait à chercher, à fouiller. C'est ça qui est bien quand on travaille aussi parfois, c'est qu'il y a juste à se pencher et à regarder ce qui se passe, parce que derrière des résultats pour l'instant, en tout cas cette saison assez brillant, premier en Ligue des Champions, premier en championnat, pas trop de menaces.
Oui. Alors sur le plan comptable,
à 10
on va dire
11,
oui.
Ils réussissent à garder le nul à Marseille, mais en revanche bon, ça après c'est du foot, mais le jeu est affreux. Puis il y a plein de petites histoires comme ça. Il y en derrière aujourd'hui, il y a Neymar qui étale en permanence son vague à la, il y a Mbappé qui a toujours pas prolongé. Bon, là on revient dans le sport, mais ça les crispe aussi. Et donc c'est, ils sont pas entre guillemets staffés pour répondre à tout ce qui leur arrive, quoi. Il y a un entraîneur, moi, Mauricio Pochettino, qui débite une langue de bois exceptionnelle. Il n'en démord pas, il sort jamais de son rôle. Il y a Leonardo qui fait deux trois interviews par an pour calmer le jeu, pour faire retomber un peu la pression. Il y a Nasser El Khelaifi qui lui est un peu plus discret, puis qui a tellement de casquettes parce qu'il fait pas que président du Paris Saint-Germain. Donc sa parole est très compliquée à solliciter ou à capter.
Mm-hmm.
Donc ouais, je pense qu'il leur manque quelqu'un qui incarne le club et qui viendrait régulièrement, ne serait-ce que faire du off, ce qu'on appelle faire du off dans le métier, c'est quelqu'un qui appelle deux trois journalistes.
Calmer.
Et puis qui dit voilà ce qui se passe, et puis voilà. Donc ça, Leonardo le fait plutôt, mais il peut pas non plus se démultiplier.
Philippe, est-ce que c'est spécifique au Paris Saint-Germain et au club un peu nouveau riche ou non?
Alors, je pense pas que ça vienne de là, parce que je pense que le Paris Saint-Germain a toujours été un peu un club comme ça, un peu éruptif, un peu paillette, qui aime bien...
C'était même revendiqué.
C'était Echter, c'était les années Echter, c'était les années
Borrelli. Un des fondateurs du club.
C'était les années Borrelli. Je pense pas que Canal Plus a peut-être donné une dimension supérieure au club, mais n'a pas changé complètement cet état de fait. On a toujours aimé recruter des stars. Il y a toujours eu des histoires. Il y a toujours eu...
Je pense pas que ce soit né
avec le Qatar. Alors évidemment là, ça prend une dimension peut-être supérieure parce que évidemment si ça arrive à Neymar plutôt qu'à Francis Liasser, évidemment c'est un peu plus important. Évidemment, c'est vrai. Mais en dehors de ça, je pense pas que ce soit spécifique ou spécifique à un nouveau club, parce que vous prenez par exemple Manchester City, qui est à la tête, qui est dirigé que par des Espagnols extrêmement sérieux, qui dirigeait auparavant le FC Barcelone et qui en avait fait déjà un club un peu supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, et qui a tout un projet sportif extrêmement déterminé. Donc je, ou Red Bull Salzbourg, si vous voulez prendre, ou Red Bull en général avec Leipzig.
Hein,
donc vous pouvez toujours, enfin, je pense pas que ce, côté nouveau riche qui détermine ça.
Non, c'est dans
je pense que c'est plus lié à l'ADN du club, à une identité.
Les derniers morts en France autour d'un stade, c'est au Paris Saint-Germain.
Oui, bon, ça, c'est peut-être un peu différent.
Mais non, mais là, mais un joueur
c'est
qui
pas
montre,
la culture paillette. Ça,
non, mais cette folie, un joueur qui montre son sexe à un agent de police, c'est au Paris Saint-Germain que c'est arrivé.
Non, mais voilà, mais c'est, finalement, c'est... tout ça nuit pas tant que ça à l'image du Paris Saint-Germain.
Le parce qu'il a été,
il a été créé dans les années 70 avec un peu cette idée-là, cette idée de d'en faire un club un peu paillette, un peu showbiz. Alors à l'époque, c'était un showbiz national. Aujourd'hui, c'est un showbiz international qui vient dans les tribunes du Parc des Princes. Mais c'est un peu toujours cette même idée qui se perpétue. Et moi, je trouve pas ça si grave que ça. Et ça correspond. Chaque club, moi, mon idée, c'est que chaque tout club doit rester avec sa culture et avec ce qui a fait un peu son histoire. Évidemment, en la faisant évoluer, mais la conserver. Finalement, il la conserve dans le bon et dans les mauvais côtés.
Par contre, il est quand même infiniment probable que le propriétaire actuel ne goûte pas trop à ça, parce que lui, il cherche une image certainement un peu plus lisse et irréprochable que ça. Mais en tout cas, voilà, le fait est que finalement, cette identité, malgré tout ce qu'on a pu dire pendant des années,
tu dis ça,
les Qataris n'ont pas changé d'identité.
Tu dis ça, une image plus lisse, je suis pas sûr tant que ça qu'il la recherche.
Enfin, lisse,
à chaque fois qu'il y a eu des soucis importants au Paris Saint-Germain avec des mini-scandales, on peut pas dire que les Qatariens soient intervenus pour régler particulièrement les problèmes et sanctionner. Rappelle-toi l'affaire Serge Aurier, par exemple. Finalement, il a été absous absolument par Nasser Al-Khelaifi.
Je pense que le prince Tamim a compris qu'il avait acheté un club à part, là. S'il a, depuis 10 ans, là, je pense qu'il a compris. Ne serait-ce qu'en 10, sur les 10 dernières années, c'est déjà passé pas mal de choses. Donc là, je pense qu'il sait qu'il a...
Vous allez écrire un livre, Dominique?
Le 22e, je crois.
Et il sait qu'il n'a pas acheté 3, quoi, hein, ou l'Orient, quoi.
Bon, alors, ce qui est plus inquiétant, peut-être, c'est sur le plan sportif, bien sûr, Dominique, mais c'est l'infirmerie. Alors, je disais en rigolant que ça ressemble à un hôpital, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les joueurs ne font pas qu'y passer. Des fois, ils restent beaucoup. Hier, on a appris que Marco Verratti, qui est quand même un habitué des lieux...
Bon, lui, c'est un hôpital à lui tout seul.
Alors, il a été blessé au match au Vélodrome à tel point qu'il est sorti avant même que la mi-temps soit sifflée, parce que c'était compliqué pour le joueur, et il est véritablement blessé, puisque cette fois c'est au moins 4 semaines. Un mois d'absence, ça veut dire, alors évidemment, de toute façon, il était suspendu, je crois qu'il pouvait pas jouer, hein, contre Lille, mais la semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions qui revient, il y a un match en Allemagne, le Red Bull Salzbourg, il y aura aussi théoriquement dans les 4 semaines le match en Angleterre à Manchester City
le 24 novembre.
Bon, alors après, lui, c'est un international italien, il va rater aussi la fenêtre internationale.
Est-ce qu'il avait déjà raté un des deux matchs la dernière fois parce qu'il avait reçu un coup au genou.
Ouais. Et ça, Marco Verratti, quand il n'est pas là, est-ce qu'on le sent?
Bah, le PSG a un effectif pléthorique, mais il n'a pas deux fois. Il n'y a pas deux Marco Verratti dans l'effectif. Quoi. Il a vraiment un profil unique.
C'est peut-être heureusement pour Verratti, mais c'est...
Dans la ressortie de balle, il a vraiment un savoir-faire, même si là, contre Leipzig, il a été...
moins bon.
Moins bon, il a été pris au pressing, mais... Mais bon, il a une fragilité, hein, indiscutablement, puisque de toute façon, il
est... C'est un peu un Dembélé du PSG.
Oui, il a une fragilité, c'est un peu un garçon en porcelaine, puisque des coups à la hanche, il y en a souvent dans les matchs, pas tout le temps, mais il y en a souvent, et ça finit pas par une blessure musculaire qui provoque un mois d'absence. Donc c'est que lui doit avoir quelque chose qui va pas bien. Donc c'est embêtant, après, parce que... Par rapport à ce que vous disiez, cette saison, c'est la première fois que l'infirmerie est pas trop remplie, contrairement à d'habitude. Là, il y a juste Paredes et Ramos. Bon, Ramos, visiblement, c'est
alors un
problème
qui traîne depuis Ramos, on arrive à la 12e journée de championnat de France.
Bah, vous n'allez pas le voir tout de suite, en plus.
Alors, Ramos, son programme de reprise évolue bien.
Ah.
Philippe, c'est rassurant.
Bah, je sais pas combien de matchs Sergio Ramos a joué depuis janvier, de toute façon.
Oui, parce que ça, la saison dernière avec le Real, si je me trompe pas, c'était 21 matchs de championnat
et
avec
dernier,
le Real.
Le dernier en avril.
Et je pense qu'à partir de janvier, enfin, il a eu 3-4 blessures environ. Il a dû revenir une fois de temps en temps jusqu'à cette semi-pathétique demi-finale à Chelsea, où il était vraiment complètement en dehors du coup. C'était peut-être à domicile d'ailleurs, c'était le match retour en tout cas. Oui, c'était à Chelsea, c'est ça. Le match retour, bon, il était comme vraiment sur une jambe, et il aurait jamais dû jouer ce match. Et depuis, il a pas joué, quoi. Il a sans arrêt des pépins qui redémarrent. Il a beaucoup sollicité son physique. C'est un joueur qui a été très loin. Est-ce qu'il est carrément cramé, comme on le dit de manière un peu vulgaire? C'est une possibilité. C'est vrai qu'il a tellement enchaîné les blessures sur les deux dernières années que c'est un peu
C'est la thèse de la Cadena Ser aujourd'hui. C'est un peu suspect. Ser, le média espagnol dit qu'il ne pourra sans doute
même plus jouer.
Plus jouer.
Mm-hmm. Ah, carrément.
Oui.
On peut s'interroger parce que c'est un joueur quand même assez vieux, puisqu'on évoquait les papis du championnat d'Italie.
Mais enfin, il n'a que 35 ans. Hein.
Oui, bon, c'est quand même un âge.
Wow, Thiago Silva.
C'est vrai que par rapport à toi et moi, c'est un gamin, mais sinon pour un.
Non,
pour
mais
un,
Thiago Silva, défenseur central, c'est encore.
Oui, mais. Est-ce qu'il a... Oui, mais d'abord, il a démarré très jeune.
Très jeune,
c'est vrai. En pro, Sergio Ramos, et il a un jeu quand même extrêmement
très physique,
peut-être plus que Thiago Silva. Il a beaucoup tiré sur la corde, et puis surtout, il y a l'espèce d'inconnu, parce que ses blessures, finalement, il est toujours dans un espèce de programme de reprise, mais de reprise en ayant soigné quoi, on le sait même plus très bien.
On a parlé d'un genou, après on a parlé d'autre chose, oui.
Voilà, donc il y a quand même une vraie inquiétude, parce qu'on comprend pas bien quel est le souci actuel pour le fait qu'il ne puisse pas donc reprendre l'entraînement collectif, être sur une feuille de match. Il y a pas beaucoup de clarté, et puis c'est pénalisant pour le Paris Saint-Germain, parce que d'abord c'est un très grand joueur, c'est Sergio Ramos, et puis peut-être que le système à trois derrière que beaucoup de techniciens souhaitent voir au Paris Saint-Germain, c'était plutôt avec Sergio Ramos et Kimpembe et Marquinhos, donc pour le coup ça donne une option un peu en moins à Pochettino.
Ouais, après il a s'il le veut, il a quand même aussi les joueurs pour le faire, hein. Si Pochettino il veut absolument sa défense à 3,
oui.
Il lui reste Kerrer, il lui reste Diallo.
Oui, bien sûr, oui, c'est vrai que c'est
il reste Danilo.
C'est un grand joueur pour évoluer dans
mais ce jeu. Kerrer il veut pas, donc Kerrer Hansi Flick le sélectionne tout le temps, il le fait jouer, donc c'est pas peut-être pas je pense qu'il peut
mais
jouer.
Mais Pochettino n'a pas forcément envie de ça puisqu'il le fait pas.
Bah oui.
Ça veut bien dire qu'il a pas.
Je pense pas que ce soit lié à Ramos.
En tout cas, Ramos, c'est peut-être un gros échec pour le Paris Saint-Germain, quand même, parce que c'était une image aussi.
Ils l'ont pris libre, donc, mais après, il y a le salaire, hein, c'est au moins 12 millions d'euros par an.
Voilà, c'est ça.
Bon, de toute façon, comme il compte plus le PSG.
Mais sur la photo de Qatar 2022, ça passera très bien. Non, mais c'est important.
Oui.
Non, mais il faut dire les choses.
Il y a des gens qui sont là pour le marketing.
La dimension du PSG, elle est très liée.
Messi et Ramos sur
et puis on n'est pas à l'abri. Et puis on n'est pas à l'abri qu'ils finissent par rejouer au football. On n'est pas à l'abri que le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale avec des champions et que Sergio Ramos, dans les arrêts de jeu, marque le but victorieux comme il l'a fait tant de fois à Madrid.
Exactement.
Et que ça reste une trace indélébile dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
Oui, même quand on fait une erreur de recrutement manifeste, ça peut être génial quand même.
Même avoir un carton rouge au moment où il faut pour faire gagner effectivement son équipe. Et puis Kiki, qui est incertain aussi, des problèmes ORL.
Une angine. Oui, c'est cette saison.
Alors lui, le meilleur quand même de l'effectif,
là
c'est plus inquiétant.
Vu que Neymar n'avance plus, que Messi n'a toujours pas marqué en Ligue 1, que Mauro Icardi n'est peut-être plus footballeur en tout cas en ces derniers temps, et que Di Maria... Il y a ceux qui jouent trop, et lui, évidemment, son problème, c'est qu'il joue pas assez, parce qu'il était suspendu avec des champions, et donc il est pas trop en rythme. Donc oui, pour marquer des buts, en ce moment, le PSG a un peu de mal.
PSG.
Sans Kylian Mbappé. Donc,
mais le PSG est en tête de la Ligue 1, et je crois vendredi soir.
Et il va le rester, même s'il perd contre
12e journée, de Ligue 1. Et ça sera contre le LOSC au Parc des Princes. Allez, on va parler arbitrage.
Des fois, les joueurs sont pas bons, et des fois, les arbitres sont pas bons. The VAR is a
wonderful thing. Oui, l'arbitre ne siffle pas, il va aller voir la vidéo.
La VAR, on va dire la VAR, l'assistance vidéo, n'a décidément pas tout réglé dans le football. A-t-elle tout compliqué ? Alors, on va prendre l'exemple de la Ligue 1 d'abord. Le PSG, justement, il est leader avec ses 28 points. Il pourrait avoir 2 points de moins, n'est-ce pas, Dominique, hein ? Face au SCO d'Angers, il y a eu un pénalty tout en fin de match qui a donné la victoire aux Parisiens. C'est Mbappé qui a marqué le pénalty. Ce pénalty, finalement, déclaré une erreur manifeste par le directeur de l'arbitrage français, Pascal Garibian. Ce qui donne, eh bien, on va le réécouter, plus de relief et de raison, surtout à la colère de l'Angevin Thomas, qui sortait du terrain alors juste après ce match-là.
C'est incroyable ce qui se passe. Qu'on perde 2-1 à l'arrivée, perdre ici, c'est pas une honte. Mais comme ça, non, c'est impossible. Nous, on travaille toute la semaine pour faire quelque chose de propre. Là, je prends le temps d'aller lui expliquer. C'est anormal qu'ils prennent pas le temps, les arbitres. La VAR, ça commence à me fatiguer, cette histoire-là. Mettre des millions dans un truc, on sait même pas l'utiliser. Donc ça m'agace, parce que je suis passionné, je suis dévoué, je fais attention à ce que je fais. Là, il y a faute au départ de l'action de Icardi. Il me tire sur le bras, je tombe, et après, il joue de sa position pour le penalty. Donc je suis frustré. Au-delà de ça, on a fait un bon match, parce qu'on les a empêchés d'élaborer leur jeu. Nous, on avait un plan de jeu, On a travaillé avec, le, avec un gros caractère. Mais franchement, c'est hyper frustrant de terminer comme ça.
Étienne Moretti, évidemment, il y en a plein des injustices dans le monde du football, des erreurs. L'erreur est humaine, on le sait. Faute avouée est-elle à moitié pardonnée? En tout cas, pour l'équipe de d'Angers, beaucoup plus que pour celle du PSG, ces points étaient peut-être très importants. Et surtout, symboliquement, c'est difficile aussi de reconnaître quelque temps après la faute par la voix du directeur de l'arbitrage.
Oui, vous dites l'erreur est humaine, on va dire que les erreurs sont humaines, parce que le problème depuis le début de la saison, c'est qu'il y a une répétition d'erreurs et d'erreurs importantes et qui ont un peu de sens. C'est pas que le fait du hasard, c'est-à-dire on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'utilisation qui est faite du VAR par l'arbitrage français, il y a un souci, ça fonctionne pas bien. Jean-Michel Aulas, aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe, pointe du doigt ce qui est fait, critique très fortement.
Il parle d'état dans l'état. Hein.
Oui, et c'est ce que considère l'ensemble du football professionnel, c'est-à-dire que l'arbitrage, il est géré par la fédération, mais à la fédération, on dit aussi que finalement les arbitres, ils décident un peu tout entre eux, qui doit monter, qui doit descendre.
C'est opaque.
Les notations, personne n'y comprend rien et on les connaît pas très bien. Voilà, c'est des critiques récurrentes sur l'arbitrage français, mais c'est vrai que cette saison, ça se conjugue avec beaucoup d'erreurs sur le terrain, avec aussi une attitude qui est reprochée régulièrement aux arbitres d'être un petit peu hautain, de pas vouloir s'expliquer, s'exprimer. Enfin voilà, il y a tout un lot de critiques qui finalement cette saison sont quand même un tout petit peu justifiées.
Alors en plus, Étienne, dans l'article que vous publiez aujourd'hui dans l'équipe, il y a quelque chose que je trouve très il écrit et il est lu. C'est le coût notamment. C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on se disait ah bah oui, il va y avoir la VAR, donc ça va coûter beaucoup plus cher l'arbitrage. Finalement, quand on regarde le coût de cette assistance vidéo, on se dit par rapport à ce que coûtent les arbitres, c'est assez peu finalement, puisqu'il coûte à peu près à peine un quart du total.
Enfin, c'est aussi parce qu'on a perdu tout repère à force de parler de transfert de 80 millions. On se dit ouais, 6 millions pour la VAR. Bon,
c'est
une babiole, c'est rien du tout.
C'est pas ça. 6 millions pour la VAR, mais 16 millions pour l'arbitrage.
Oui, bien sûr. Bah oui, parce que les arbitres sont payés et sont nettement plus payés qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc, c'est bien parce que pendant des années, celle qu'on a connue, Philippe et moi, donc c'était vraiment un simple petit dédommagement. Mais c'est vrai qu'avec la professionnalisation, il y a aussi une exigence d'amélioration, de qualité. Et bon, on l'a vu sur la scène internationale, l'arbitrage français quand même est pas rayonnant. Et,
très peu d'arbitres internationaux.
Et aujourd'hui, en Ligue 1, voilà, il y a un souci du côté de la Ligue de football professionnel, donc comme vous le dites, qui paye les arbitres, parce que c'est pas eux qui les
dirigent,
mais c'est eux qui les payent. Voilà, on veut tout remettre à plat, on veut qu'il y ait des transformations. On dit aussi par exemple que voilà, les arbitres français, ils font énormément de stages où ils apprennent à courir très vite, à être très résistants, mais qu'il ferait peut-être mieux de faire aussi des stages un peu de psychologie, parce que sur le terrain ils en manquent.
Philippe, est-ce que vous trouvez que c'est typique à la France et à l'arbitrage français, la mauvaise utilisation
du VAR?
Oui. De la VAR.
Si on prend des modèles comme l'Angleterre ou ce que l'UEFA par exemple a voulu pendant l'Euro, oui, à l'évidence, il y a une différence. Il y a une mauvaise utilisation côté français. Il y a des choses qui sont des principes de jeu, je trouve, qui sont bafoués. Il y a des lenteurs incommensurable, hallucinante sur des cas très simples.
Ça prend 4 minutes parfois.
Parfois des choses très simples. Bon, à l'arrivée, la décision est bonne. Encore heureux. Bon, très bien. Mais par moments, on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour des hors-jeux simples? Vraiment, il y a des choses très, très étonnantes dans l'utilisation à la française. Sur le plan du cahier des charges de base, c'est le même que pour tout le monde.
Mais la différence,
la grosse différence, c'est que les Anglais, par exemple, le cahier des charges de la FIFA, qui est pas bon, faut dire les choses, le VAR est un outil indispensable et très mal né, parce que la FIFA en a fait un très très mauvais outil. Elle l'a confié aux arbitres, ce qui était quand même le plus mauvaise idée qu'on pouvait avoir, c'est de confier ça à des arbitres. Les acteurs de jeu auraient été, à mon avis, un peu plus intelligents. Et je crois que la différence, c'est que la France l'applique un peu bêtement, elle applique le cahier des charges tel qu'on leur a dit. Ah, ils font comme la FIFA a dit. Bon, et comme le cahier des charges est pas très bon, mais les arbitres français sont pas très bons, je préfère les Anglais qui disent Moi, je crois que je sais 2-3 choses sur le football. Et par exemple, ça, dans le VAR, je ne vais pas l'utiliser. Mmh. Et ça, je vais l'utiliser autrement. Et si en 30 secondes, j'ai pas la solution, je ne l'utilise pas. Voilà. Les Anglais, au moins, ils ont une réflexion propre.
Ouais, ils l'ont adaptée.
Et qui est d'autant plus intelligente que vous remarquerez que l'UEFA, lors de l'Euro, a adopté en bonne partie tout ce que les Anglais font. Et du coup, le VAR n'a pas trop fait parler pendant l'Euro.
Il y a peut-être un problème franco-français, plus peut-être dans l'attitude, que vraiment dans l'utilisation de la VAR, parce que moi je sors d'un match France-Espagne en Italie où je n'ai absolument rien, je n'ai absolument rien compris au but de Mbappé.
Et c'était l'UEFA.
Pour moi il est hors jeu. Pour moi c'était un arbitre anglais, Monsieur Taylor. Pour moi
c'est un règlement qui a été réglementé de façon stupide.
Mais non, mais il faut l'expliquer aux Espagnols. Je crois que les Espagnols n'ont toujours pas compris ce qui leur est arrivé. Ils ont protesté pendant de longues minutes. Monsieur Taylor n'a jamais voulu leur expliquer.
Mais la règle est con, mais elle existe.
D'accord, mais on peut l'interpréter autrement.
Ils peuvent pas prouver. On
peut pas prouver que Garcia a remis en jeu Mbappé. Donc pour moi, l'utilisation de la VAR, elle n'est pas spécifiquement mal utilisée en France. Moi, je pense simplement que la VAR est pas bonne. C'est simplement, je me suis trompé. J'étais pour l'arrivée de la vidéo. Et depuis que c'est là, je pense que c'est un fiasco. C'est un fiasco de perte de temps. Le foot est un sport de rythme et là, on perd un temps fou.
Ça n'améliore pas. Pour commémorer un but, des fois, ça prend 2 ou 3 minutes et c'est frustrant.
Non, mais la goal line, c'est autre chose. Commémore deux fois.
La goal line, c'est autre chose. Et but, pas but, ça, c'est
évident. Non, c'est pas utile. Mais sur le hors-jeu.
Franchement, les hors-jeux qui ont été annulés pour Marseille Paris Saint-Germain ce week-end, si vous les accordez, c'est pas un scandale.
Non, ouais,
donc franchement,
il y aurait eu 1-1.
Franchement,
c'est un bon exemple. C'est totalement dévoyé sur le match, sur le classique. C'est-à-dire que ces deux buts, vous devriez être à 1-1 et que voilà un match qui s'enflamme et finalement, c'est quasiment impossible. Même quand vous voyez la ligne, je veux dire, vous ne pouvez pas avoir la moindre idée de savoir s'il y a hors-jeu ou pas. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas hors-jeu. C'est parfaitement ridicule.
Vous avez voulu le VAR. Si vous avez voulu le VAR, vous avez...
Nous, Dominique et moi. On a décidé, on a fait une réunion. L'équipe, le Parisien, et hop, on a introduit la VAR.
Je me suis trompé.
Certains de gens ont demandé le VAR en disant, mais ce sera très simple.
Peut-être pas nous.
Bon, ben, la conséquence, quand on demande le VAR, la moindre des conséquences, c'est de se dire, quand il est hors-jeu de quelques centimètres, certes, mais qu'il est quand même hors-jeu.
Tu arrives à le voir, même avec tes lunettes, ou pas?
Je suis désolé, le but de Milik, je me demandais si Lirola était pas en jeu. Je me posais la question.
Mais quand on se pose la question, qu'on n'a pas complètement la réponse.
J'ai entendu des gens qui se posaient
la question. On peut laisser prospérer le football et laisser les buts être marqués.
Etienne, on parle de hors-jeu. Est-ce que vous avez compris, vous, le hors-jeu automatique promis par Arsène Wenger?
Non, parce que pour l'instant, ça reste encore un secret industriel. D'ailleurs, c'est plutôt
c'est
inquiétant.
Encore une montre qui va sonner au poignet?
Écoutez, c'est de la technologie donc qui va encore...
Coûter
ça sans aucun doute, mais aussi priver les arbitres
de gagner de l'argent à certains intermédiaires.
Ça vraisemblablement, mais surtout, on va dire, automatiser de manière parfaitement ridicule le football comme si c'était possible, et puis surtout déresponsabiliser encore plus les arbitres, ce qui est déjà le cas, parce que c'est aussi un des problèmes de la VAR et de son utilisation, c'est qu'on a le sentiment que ça dévoie complètement ce qui était le principe de base, c'est-à-dire venir aider éventuellement les arbitres. Là, on a l'impression qu'il y a certains arbitres qui démissionnent complètement et qui attendent ensuite de renvoyer tout aux images.
Oui. Je pensais par exemple que ça allait calmer les joueurs. Je pensais que l'utilisation du VAR faisait que les joueurs allaient se dire de toute façon ça va être checké, comme on dit.
Mais c'est pas toujours checké, c'est ça?
Oui, mais il y a 4 cas aujourd'hui. Et puis que ils allaient attendre comme tout le monde. Et puis on leur dit. Et finalement, je m'aperçois que les joueurs protestent toujours autant, que ça excite autant les deux mêmes maintenant.
Ah oui, mais s'il y a des erreurs,
je comprends la frustration de Thomas.
Romain Thomas.
C'est évident. Lui, en plus, c'est une erreur de bonne foi parce que ils ont oublié de checker la faute de.
L'origine
de la faute de Cardi. Ils ont checké s'il y avait pénalty, ils ont checké si c'était bien main ou pas, mais ils ont oublié de revenir à la faute initiale.
Ouais, ce qui est une faute.
Mais
c'est une faute humaine. C'est l'oubli. Ce qui prouve que le VAR n'a pas enlevé le facteur humain.
Ça va trop vite dans leur camion, qui n'est pas un camion. Et donc, ils sont. Finalement, la VAR, c'est quand ils arrivent en retard
à
Paris.
C'est comme la boîte noire qui n'est pas noire. Voilà, c'est pas un camion.
Non, mais c'est comme toujours, il faut des bons arbitres sur le terrain et ils font des bons arbitres à la VAR.
Revenons à l'œil humain.
Si l'arbitre n'est pas bon à la VAR, il fait les mêmes conneries sur le terrain, excusez-moi.
Donc ça reste humain.
Oui, ça reste humain.
Mais donc, supprimons le VAR.
Alors, dévoyer le football. Eh bien, justement, on continue, on va encore en parler. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money. mettons les pieds tout de suite dans le plat, comme Gianni Infantino, Étienne Moati, le projet de Coupe du Monde tous les deux ans, qui devrait ou qui devait faire l'objet d'un vote, hein, théoriquement le 20 ou le 21 décembre, lors d'une réunion.
Qui devait, parce que ce sera pas le cas. Hein,
de la FIFA. Justement, on a aujourd'hui, et on va entendre les différents sons de cloche. D'abord, on va écouter Arsène Wenger, parce que c'est l'homme des basses œuvres de Gianni Infantino quand même. Là, hein.
C'est bien défini.
Il l'a envoyé au front, et Arsène Wenger, il essaye d'y mettre toute sa bonne foi. Il a revu le calendrier international, et il passe à l'offensive en essayant d'expliquer, et on essaye de comprendre ce qu'il veut dire.
Moi, ce que je propose, en réduisant le nombre de matchs de qualification, on crée une fenêtre pour la compétition à la fin de l'année. Cette fenêtre, qu'on joue la Coupe du Monde ou pas, il y aura une autre compétition qui va être organisée. Ce que je propose, et je pense que le respect des fans passe par là, le respect des supporters passe par là, c'est de ne leur proposer que des compétitions qui ont un sens, qui ont une importance et dans laquelle ils peuvent s'identifier. Je comprends les réactions, je comprends les critiques, je comprends les réticences au changement. Ce que je propose, c'est un débat et à la fin, que le monde du football tranche.
Que des compétitions qui ont un sens. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de sens actuellement. Étienne, est-ce qu'il y a vraiment débat ?
Débat, oui, le débat a démarré. On va dire plus qu'un débat, ça a été quelque chose qui est sorti donc un peu du chapeau de la FIFA. Même Sepp Blatter, il y a déjà quelques années, avait aussi ce genre d'idée-là. Donc quand Sepp Blatter a une idée, en général, c'est plutôt bien de pas la reprendre.
Et là, comme on est encore entre Suisses et Suisses valaisans, comme on dit, puisqu'ils sont tous les deux, hein, Infantino et son prédécesseur.
Voilà, donc comme vous l'avez dit, Gianni Infantino, il a envoyé Arsène Wenger au front pour essayer de déblayer un petit peu ce terrain-là, de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, voir quelles pouvaient être les résistances, même si on peut imaginer qu'il se doutait qu'il y en aurait. Et puis là, j'ai quand même un peu le sentiment qu'il est déjà en train de battre un peu en retraite, parce que il devait y avoir une décision définitive prise au mois de décembre.
Il y avait des confédérations qui étaient déjà d'accord avec Gianni Infantino.
Oui, on les connaît.
En Asie, les Africains, en Afrique, bien sûr, les premiers.
Sont plutôt favorables parce que ça leur donnerait donc plus de chances de disputer la Coupe du Monde, peut-être aussi plus de chances parfois de l'organiser. Mais enfin, les Européens et les Sud-Américains, c'est-à-dire ceux qui sont les grands pays pour la Coupe du Monde, sont farouchement hostiles.
Ceux qui offrent le spectacle aussi, parce que les grands pays, d'accord, mais ceux qui offrent le spectacle quand même.
Absolument. Et puis également les ligues européennes, les clubs européens, c'est-à-dire qui concentrent tous les meilleurs joueurs du monde, sont complètement donc vent debout contre ce projet. Donc ça paraît extrêmement compliqué, même si vous avez une majorité en voix à un congrès de la FIFA avec une majorité de pays contre les Européens, les Sud-Américains, ça paraît totalement impossible de l'imposer. Donc là, le sentiment que j'ai, c'est que Gianni Infantino, il est en train de battre en retraite, mais comme il a fait beaucoup de promesses à beaucoup de monde, eh bien, peut-être il va en subir lui-même les conséquences.
Ah, peut-être. Alors en tout cas, les acteurs de ces compétitions qui doivent avoir du sens, c'est quand même les... alors il y a bien sûr les entraîneurs et tous les staffs, mais il y a aussi les joueurs. Et aujourd'hui, quelqu'un s'est exprimé, c'est le secrétaire général de la FIFPro, qui est le syndicat international des joueurs, qui parle de projet mort-né. Et écoutons les propos de Jonas Baer-Hoffmann, qui est néerlandais.
Je pense que ce qu'on est en train de demander aux joueurs, c'est de passer chaque été loin de leur famille pendant un mois, puis de subir la pression de leur club pour qu'ils reviennent au plus vite dans leurs équipes. Je ne vois vraiment pas comment cela pourrait fonctionner. Il faudra donc changer radicalement les données du problème et engager une vraie discussion pour trouver un compromis.
Philippe Doucet, c'est compliqué de tout changer radicalement et surtout de réorganiser tout ça. Quand même, une planète football qui, même s'il y a des imperfections et tout, elle avait l'air de tourner autour de ces 4 ans de Coupe du Monde et les Euros, les compétitions européennes tous les 4 ans et Copa América. Bon, là, c'est un peu plus folklorique, mais disons avec un rythme quand même déjà organisé.
Il y avait des cycles. Il y avait des cycles qu'on connaissait, qui étaient immuables. Effectivement, la CAN tous les 2 ans, les 4 ans pour la Coupe du Monde, les 4 ans pour l'Euro, etc. Et tout ça alternant les Jeux Olympiques là-dedans, etc. Mmh. Il y avait un
les autres
un cycle,
sports aussi, parce que c'est ça.
Oui, parce que les Jeux Olympiques, en fait, ce rythme de 4 ans était lié au rythme des Jeux Olympiques, en fait. C'est ça, l'alternance Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, qui faisait marcher notre sport jusqu'alors. Aujourd'hui, c'est difficile de le changer, oui, mais c'est difficile de le maintenir aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Le football aujourd'hui est pris dans les taux de l'argent, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a des clubs monstrueux qui font qui font 10 fois en gros ce qu'est leur cinquième du championnat, c'est 10 fois moins de budget quoi, dans nombreux pays. Donc c'est un football complètement disproportionné, complètement explosé, avec des clubs, donc quelques clubs majeurs qui veulent de plus en plus d'argent, qui veulent de plus en plus gros et qui partent vers des projets de Super League ou autres, qui un jour ou l'autre vont revenir et peut-être plus vite qu'on ne le pense. Parallèlement, au niveau des pays, des institutions, on a la FIFA qui a de l'argent une année sur quatre seulement. Les ressources de la Coupe du Monde, c'est une année sur quatre. Son budget, c'est une année sur quatre. La FIFA, elle veut autre chose. Alors, elle veut soit la Coupe du Monde des clubs, mais je pense qu'Infantino s'est aperçu que ça rapporterait peut-être pas autant que prévu, d'où l'idée de finalement une Coupe du Monde tous les deux ans. Il lui faut une autre épreuve. Il lui faut de l'argent. Mais pour prendre de l'argent, il faut le bouffer sur l'UEFA. Parce qu'il faut soit le football des clubs, qui aujourd'hui est plutôt UEFA avec la Ligue des Champions, soit le football des nations, et à ce moment-là, c'est sur l'euro qui piquerait l'argent, parce que c'est l'euro qui en serait victime. Donc voilà, il n'y a pas de miracle, tout le monde veut plus d'argent, et à l'arrivée d'ailleurs, peut-être qu'on va avoir une contre-offensive UEFA-CONMEBOL, parce que tous les grands pays sont entre l'Amérique du Sud et l'Europe, et pourquoi pas, ils pourraient créer une Ligue des Nations un peu ouverte ou autre, qui finalement vaudrait largement la Coupe du Monde, voire serait peut-être plus relevée pour les phases finales avec des nations encore plus fortes qu'à la Coupe du Monde. Et puis finalement, pourquoi ne pas se passer de la FIFA et de tous les autres. Donc en fait, on est sur une espèce de guerre, une guerre planétaire entre les institutions, et pas seulement les institutions, puisqu'il y a aussi des fonds de pension et autres qui regardent ça avec beaucoup d'attention en se disant « ces institutions sont pas si solides que ça ». Moi, je peux très très bien reprendre ce business du football. Je peux le reprendre en créant d'autres compétitions. Donc, moi, c'est ce que je dis depuis quelques années. Je pense que dans les 10 ans qui vont venir, tout ce qu'on connaît aujourd'hui va exploser d'une manière ou d'une autre. Et aboutir à quoi, ça, j'en sais rien.
Dominique.
Pourtant, on avait trouvé une forme d'équilibre, certes très libéral, mais que le football était arrivé à ce qu'on nous avait annoncé après la pandémie, que tout le monde allait se casser la gueule, puis finalement on s'aperçoit que le football, cette magnifique activité, cette magnifique bulle financière, elle arrive à peu près à se maintenir sur ses deux pieds, qu'importe les déficits, qu'importe les manques à gagner, qu'importe les saisons vides, qu'importe les huis clos. Et là,
pas pour tout le monde, hein. Ça c'est vrai pour 5-6 clubs dans le monde, hein. C'est pas beaucoup. Hein.
C'est plus que 5-6 clubs. Je pense au moins la moitié des championnats italiens, la moitié du championnat anglais, la moitié du championnat allemand. Ça fait déjà plus que 5-6 clubs. Moi naïvement, je pensais que le monde d'après serait un peu plus lofi, que les gens allaient comprendre qu'il fallait un petit peu redescendre. Puis je m'aperçois qu'en fait, c'est, comme le dit Philippe, c'est une espèce d'anarchie de toujours plus
de surenchère,
de plus de bilan carbone, de plus de voyages, de plus de sponsors, de plus de coupes du monde, de plus de compétitions. Donc je pense que les dirigeants sont complètement hors sol, comprennent pas dans quel monde on est, ce qui sont les aspirations du public. Arsène Wenger, il parle des fans. Je pense qu'il a pas compris justement ce qu'était la révolte de la Super League, parce que les gens veulent pas ça.
Des groupes de supporters se sont révélés.
Il y a les télés aussi qui suivent pas, qui disent voilà, on va pas acheter des droits tous les deux ans. Mais il y a aussi les fans qui ne sont pas prêts à vivre une Coupe du Monde tous les deux ans. On sait que c'est galvauder le produit.
Étienne, juste pour terminer, vous pensez que c'est un projet mort-né, vous aussi?
Oui, je pensais dès le départ que c'était aussi un moyen de pression de la FIFA pour obtenir autre chose, sachant très bien que c'était impossible d'aboutir, surtout quand il se donnait comme délai d'aboutir dès le mois de décembre.
Oui. Donc, on avait l'impression qu'il voulait passer en force.
Je pense que c'était des menaces surtout, envers le football européen, de dire voilà, si vous nous donnez pas quelque chose, et je crois qu'il pensait aussi beaucoup à la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire obtenir des accords qui lui permettaient d'essayer de faire prospérer cette compétition-là. Maintenant, je pense que Gianni Infantino, il s'est beaucoup avancé, et quand il va s'agir de reculer, ça peut peut-être être plus compliqué qu'il ne le pensait, parce que les Africains, les Asiatiques ont beaucoup rêvé avec cette histoire, et quand il va falloir leur expliquer que non, finalement, tout ça, c'était une blague, c'était juste pour faire peur aux Européens et aux Sud-Américains, mais qu'en fait, c'était juste pour obtenir une espèce de contrepartie, ça a peut-être un petit peu l'affaibli. Hein.
Mmh, ouais. Donc, les surenchères qu'on voit, comme par exemple le projet dont vous nous aviez parlé aussi dans le journal Monaco-Lyon en Chine...
Ça vous plaît pas ?
Écoutez, je suis allée en Chine assister à un trophée des champions et j'étais sidérée, alors que c'était le PSG avec Neymar, Mbappé et tout. Il y avait personne dans le stade au moment du match.
Oui, enfin, c'est un projet un peu.
Il y avait 2000 personnes sur.
C'est un projet un peu curieux d'aller essayer de faire un Monaco-Lyon à Shanghai. Franchement, ça m'a surpris quand j'ai obtenu cette information-là. Après, la Ligue de football professionnel est en telle difficulté, les clubs français sont en telle difficulté qu'ils essaient de trouver des idées pour essayer de promouvoir notre compétition.
C'est un pays peuplé pourtant.
Oui.
Mais là aussi, il faut que la FIFA donne son accord. Hein.
Je sais.
Ouais.
Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Merci. Tous les jours.